Alors, on va parler du salut aujourd'hui. Il est écrit dans l'épître aux Timothée, de Timothée, premier épître, « Cela est bon et agréable devant notre Dieu, devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. » Le thème du salut est un thème très vaste et très compliqué. Lorsque on cherche à y mettre notre sauce, si je puis dire. Et pourtant, il est nécessaire de connaître le fondement même du salut, parce que le salut, c'est le fondement de notre foi. Souvent, nous pensons que nous voyons et nous prêchons la guérison, nous prêchons la délivrance, nous prêchons la bénédiction, et nous voulons ces choses, que les choses soient claires. Nous prêchons la manifestation de la puissance du royaume de Dieu. Mais ces choses-là ne sont pas le fondement de notre foi. Ce qui est le fondement de notre foi, c'est notre foi en un salut qui vient de Jésus. Les signes miraculeux accompagnaient l'annonce de la bonne nouvelle. Jésus n'a jamais demandé à ses disciples, il ne leur a pas dit quand il envoie les 70 disciples, il ne leur dit pas « Allez prêcher la guérison, allez prêcher la guérison ». Allez prêcher la délivrance, allez prêcher la bénédiction. Non, allez prêcher la bonne nouvelle. Et les signes qui accompagnaient l'annonce de cette bonne nouvelle étaient la guérison, délivrance, bénédiction, manifestation du royaume de Dieu. Pour moi, le thème du salut est primordial. Et je dois connaître d'abord que je suis sauvé, parce que personne, il y a des personnes parfois dans leur vie, elles ne sont pas sûres de leur salut. Même des personnes qui ont grandit dans l'Église, elles ne sont pas sûres de cela. Et nous ne devons pas chercher, nous, en tant que personne, en tant qu'Église, uniquement les bénédictions qui sont issues du salut, mais rechercher d'abord à fonder notre foi sur un salut qui est scellé et qui est, si je puis dire, indestructible en Jésus. Hébreux 2, il est écrit « C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut ?» Je voudrais m'arrêter là-dessus. Il est écrit ici qu'on peut négliger le salut. On peut négliger ce que Dieu a fait dans notre vie, qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, à savoir les apôtres, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles. Vous voyez que là, encore, ce n'est pas Jésus qui envoie dire, allez guérir, allez délivrer, allez... Non, allez annoncer la bonne nouvelle et les signes viendront derrière. Lorsque la Bible parle du salut, sur quoi base-t-elle son fondement? Quel est le fondement de notre salut? La première base que nous devons connaître, c'est que le salut est basé sur le fait que l'homme est perdu éternellement. L'homme est perdu et nous sommes perdus si nous n'avons pas Christ en nous. Il est écrit en Romains 3, 23, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Tous. Et pas simplement les inconvertis. Les chrétiens aussi. Vous comprenez? Lorsque quelqu'un pêche, il est privé de la gloire de Dieu. Et toute l'œuvre de Christ est liée à cette réalité spirituelle. Nous sommes perdus, nous sommes éloignés de Dieu et nous avons besoin d'un sauveur. Un seul sauveur, un seul médiateur. Il a été, c'est Jésus-Christ. Jésus qui veut dire Yeshua, ça veut dire qui veut dire Dieu sauveur. D'accord? Et Christ qui veut dire oint. Lorsque nous proclamons, lorsque nous annonçons Jésus-Christ, nous annonçons que Dieu sauve, par Jésus et que Jésus a été oint. Il a reçu l'autorité, il a reçu le pouvoir pour sauver les hommes. Lorsque Joseph reçoit la visite de l'ange, avant que Jésus ne naisse, parce que lui, il était dubitatif, hein, sa fiancée était enceinte. C'était quand même une drôle de nouvelle hein, qu'il venait d'apprendre. Et l'ange vient le voir, lui dit, tu l'appelleras Jésus. Il lui dit pas, tu l'appelleras délivrant, tu l'appelleras pas guérison, tu l'appelleras pas un nom qui ressemble à cela. Il dit, tu l'appelleras Dieu qui sauve. Et quand Joseph reçoit cette parole, c'est pour expliquer que l'impact de Jésus sera puissant parce qu'il guérira, il délivrera certes, mais il ramènera un grand nombre de personnes au salut, à la réconciliation avec Dieu. L'objectif primaire de Dieu, ce n'est pas que nous sommes riches. L'objectif prioritaire de Dieu, ce n'est pas que tu te sentes bien. L'objectif prioritaire, ce n'est pas que tu sois en bonne santé. Je suis désolé de vous annoncer la nouvelle. Ce n'est pas que tu aies une belle maison, même s'il le fait pour nous tout cela, hein, d'accord ? L'objectif prioritaire, ce n'est pas que tu aies tout cela, mais que tu sois sauvé, que nous soyons sauvés, que les gens soient sauvés. Et là, il faut vraiment que nous puissions revoir peut-être notre manière de prêcher l'évangile. Souvent, j'ai entendu des personnes annoncer à d'autres et passer par cette voie-là, dire « Viens à l'église et tu seras béni. Viens à l'église et tu seras guéri. Viens à l'église et tu seras délivré. » Oui, Dieu fera ces choses, mais la première des choses que les gens doivent entendre, tu as besoin d'un sauveur. Vous comprenez cela ? C'est-à-dire que nous devons revoir notre manière d'aborder les situations. Je peux vous dire, jeudi soir, je ne sais pas si je peux témoigner de ça, Aldora, oui, par rapport à Béatrice. Cette femme vient, et elle vient pour recevoir la prière. Elle demande la prière, parce qu'elle a un problème de santé. Et je ne sais plus qui dit, mais à un moment donné, on parle de l'écriture, de la Bible. Et elle dit, je ne comprends pas. J'ai l'impression de lire un livre mort. Alors, ça surprend toujours les chrétiens, etc. Mais là, je lui ai répondu, mais la Bible est claire. L'homme spirituel connaît les choses de Dieu. Celui qui n'est pas né de nouveau ne peut pas les comprendre. Et j'étais droit au but. Tu as besoin de naître de nouveau. Et comment naître de nouveau ? Eh bien, tu as besoin de prendre conscience que tu es perdu, que ton péché t'éloigne de Dieu et que tu as besoin du pardon de Dieu. Et vous savez, pourtant, elle était venue ici le 20 novembre. Elle a entendu le message de l'évangile le 20 novembre. Et vous savez ce qu'elle a dit à un moment donné ? Elle a dit, waouh, j'avais jamais réalisé que j'avais besoin de pardon. Et ce soir-là, elle est ressortie en ayant la conviction qu'elle avait besoin d'être pardonnée. Et ce soir-là, elle a compris qu'elle avait besoin d'un sauveur. Vous comprenez cela ? Tant que la personne ne comprend pas qu'elle est perdue pour l'éternité, qu'elle est éloignée de Dieu à cause de son péché, tant qu'elle ne comprend pas cela, elle ne saisirait pas la nécessité du salut. Moi, quand Dieu m'a parlé, quand à 5h du matin, il y a de nombreuses années, mon épouse me réveille, elle me dit, Dieu m'a parlé, tu as fait ça. J'ai eu la crainte parce que j'ai vu que Dieu voyait ce que j'étais en train de faire. Et j'ai eu peur. Et je me suis dit, je suis perdu. Ma première réaction a été de dire, va chercher ton collègue de boulot. Il faut qu'il vienne ici. Il faut que je règle ma vie devant Dieu. Et aujourd'hui, l'Église a biaisé le message de l'Évangile. Vous comprenez cela ? On dit aux gens, venez à l'Église, vous pourrez trouver votre identité. Venez à l'Église, tu verras, tu vivras les choses comme une famille. Oui, tout cela, c'est vrai. Mais la priorité de Dieu, c'est de toucher le cœur de l'homme et régler quelque chose d'essentiel dans la vie de la personne et de nos personnes. C'est le péché en nous qui nous sépare de lui. Alors, c'est vrai, ça paraît brutal. L'autre soir, je lui ai dit, est-ce que tu veux faire cette prière de repentance ? Ensemble, on a fait la prière de repentance. Elle a répété cette prière de repentance. Et visiblement, ça a eu un impact dans sa vie. Je ne dis pas qu'on a gagné, mais j'ai entendu dire, en tout cas, que ça avait touché son cœur, qu'elle n'est pas ressortie de là indemne, si je puis dire. C'est qu'il y a eu un impact à un moment donné de l'Esprit de Dieu dans la vie de cette personne. Et vous savez, je suis désolé de vous le dire, mais l'Église, on a vu dans l'Église bon nombre de personnes fréquenter des églises, des gens venir et se faire baptiser et ne pas être passés par cette étape importante. Et on a rempli les églises de personnes pseudo-converties, pseudo-chrétiennes, mais qui en réalité, dont le cœur n'était pas changé en profondeur et qui ont provoqué de grands soucis parce que elles étaient encore dans une ancienne, une vieille nature pécheresse. Et ça pourrit, et je pèse mes mots, ça pourrit la vie des églises. Mais la faute, c'est pas la faute de ces personnes. Elles ne savent pas, elles ne comprennent pas. La faute, c'est la faute des chrétiens, des responsables peut-être. Peut-être les pasteurs en premier. Mais c'est la faute, c'est qu'on a biaisé le message de l'évangile. Et si vous devez parler à une personne du Seigneur, parlez-lui d'abord de son péché. Parlez-lui d'abord de sa désobéissance. Dites-lui, ah je sais, ça fait peur. Mais pour qui va-t-elle me prendre? Mais faites-le avec amour, s'il vous plaît. On en parlait l'autre soir, surtout avec de l'amour. La base biblique, le premier fondement du salut, c'est que tous sont pécheurs. Tous, aucun, il n'y en a qu'un qui soit né sans péché, c'est Jésus-Christ. Il est l'agneau parfait qui a été immolé sur la croix. Il est le seul. La deuxième base biblique sur le fondement du salut, c'est sur l'origine du péché. Souvent, on vous a dit que le péché est venu en Éden. C'est vrai? Or, le péché existait déjà. Je vous surprends là, peut-être. Il est écrit dans Ézéchiel 28, il est question de l'ange. Parfait, Lucifer, ange de lumière, qui était un chérubin protecteur. Les musiciens étaient à son service. Et il est question qu'il, à cause de sa beauté, à cause de de l'onction, je ne sais pas comment appeler ça, il s'en est orgueilli et il a voulu prendre la place de celui qui l'avait créé. En réalité, l'iniquité est entrée au moment où Lucifer a voulu prendre la place du Créateur. Et qu'a fait Satan? Qu'a fait Satan? Il n'a fait que communiquer cela à l'homme et à la femme, à Adam et Ève, au moment où ils étaient dans le jardin d'Éden. Il a voulu transmettre son ADN, parce que l'ADN de Satan a changé. Il est passé de Lucifer à Satan. Il est passé de fils de lumière à fils des ténèbres. Vous voyez, il y a quelque chose dans son ADN qui a changé. Il n'était plus le même parce qu'il avait désobéi, parce que l'iniquité était entrée dans lui. Et en réalité, le jour où Adam et Ève sont rentrés dans le jardin d'Éden, que s'est-il passé? Lorsqu'ils ont accepté, le père du mensonge a mis en cause l'amour de Dieu pour les personnes qu'il avait créées. Et souvent d'ailleurs, c'est l'œuvre de l'ennemi. Il met dans le cœur des gens une pensée qui est « Est-ce que Dieu t'aime vraiment? Est-ce que Dieu a réellement dit? Est-ce que Dieu existe ?» etc., etc. Et l'ADN, si je puis dire, a été transmis à Adam et Ève. Aujourd'hui, tous naissent avec cet ADN-là. Tous sont pécheurs. Depuis, tous sont privés de la gloire de Dieu, de la présence de Dieu. Il n'y en a aucun qui puisse dire le contraire. Nous sommes tous sous la domination du péché. Et quand vous pouvez amener une personne à l'église, vous pouvez amener une personne ici dans ce lieu, ou dans votre église, ou ailleurs, vous pouvez l'amener dans une réunion, mais vous ne lui communiquez pas la vraie vie. Vous comprenez ? Ce qui l'amène à la vie, c'est lorsqu'elle prend conscience que son ADN est celui-là. Lorsqu'elle prend conscience qu'elle ne pourra jamais changer toute seule. Elle a besoin de revoir son ADN, être retransformée. Vous comprenez ? Elle a besoin de voir cette vieille nature disparaître, cette nature charnelle, pour que quelque chose de nouveau puisse venir en elle. Donc, s'il vous plaît, partagez cela autour de vous. Communiquez cela autour de vous. C'est bien, vous amenez des gens à l'église, c'est bien. Mais faites ce travail. Le rôle, c'est le rôle de dans ce travail, c'est pas le pasteur, c'est le contact que vous avez avec la personne. Vous imaginez, moi qui suis étranger à cette personne, je lui dis, tu es pécheur, tu es privé de la gloire de Dieu. S'il n'y a pas une relation déjà avec elle, elle va me prendre pour un orgueilleux, elle va me prendre pour quelqu'un de mauvais, quelqu'un qui la rejette, surtout si elle a déjà le doute de l'amour de Dieu en elle. Alors que là, vous avez bâti une relation avec la personne et vous lui avez dit, tu sais, je crois que ton problème, c'est ton péché. J'ai un ami, moi, un ami proche, pas chrétien, que j'aime beaucoup. Il a fait des bêtises dans sa vie. Il en a fait. Et un beau jour, j'étais le voir et je lui dis, il faut que tu arrêtes. Parce que tu es en train de pécher. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Et je lui ai dit, tu es en train de détruire ta famille. Tu es en train de détruire ton couple. S'il te plaît, change. Ah, il n'est pas devenu chrétien, mais ça l'a interpellé. Vous savez ce qu'il a fait ? Il est revenu dans une voie plus droite. Et un jour, quelqu'un, en public, dans une réunion de famille, il y avait des croyants et des incroyants, a commencé à critiquer Dieu, à critiquer ce en quoi nous croyons. Vous savez ce qu'a fait cet ami ? Il s'est levé de table et il a dit, moi, je ne vais pas à l'église. Moi, je n'ai pas donné ma vie au Seigneur. Mais ce que je sais, c'est que Dieu est vivant. Et parce que si je n'avais pas rencontré Bruno et Maryse, aujourd'hui, mon couple n'existerait plus. Vous comprenez ça ? C'est qu'il y a quelque chose qui a été semé dans le cœur de cet homme. C'est qu'à un moment, il a saisi, parce que je l'ai amené à un moment donné devant la réalité qu'il était perdu, qu'il était pécheur, et que le péché amène la mort dans la vie des gens. La séparation avec Dieu. Et parfois, la mort physique. Je vais essayer d'avancer. Qu'est-ce que le péché ? Je vais avancer parce que du coup, j'ai oublié de vous montrer les trucs. C'est pas grave. Le péché, c'est la transgression de la loi. Oui, Dieu a donné des lois et des règles. L'autre jour, vous savez, moi je suis responsable dans une usine et on doit faire des visites sécurité. Alors on doit aller à l'improviste, tu sais, on fait comme la police au rond-point, vous savez, où qui mettent leur voiture. J'aime bien faire le policier parce que je me suis fait assez avoir. Après tout, chacun à son tour. Et puis on doit y aller à l'improviste, on doit voir la personne travailler, savoir si elle travaille dans les règles de sécurité. J'arrive et je lui dis, il n'avait pas ses lunettes. Et l'endroit où il était, en plus, il y avait un panneau « Port des lunettes obligatoires ». Alors j'arrive, et puis bon, je le connais bien, on a une bonne relation avec ce gars. Et je lui dis « Mais, eh oh, t'as pas vu le panneau « Port des lunettes obligatoires » ?» Le gars, vous savez ce qu'il me répond ?« Si, si, je l'ai vu, mais toi, je t'avais pas vu. » Mais c'est plein d'enseignements, cette expérience. Parce qu'on obéit quand on est fliqué. Vous avez remarqué ça ? Enfin, moi surtout, peut-être pas vous. Vous êtes parfait, pas moi. Vous savez, lorsqu'il y a des règles qui sont mises en place, pourquoi cet homme doit porter ses lunettes ? Parce qu'on veut protéger ses yeux. Imaginez qu'il y a un produit chimique qui lui arrive dans l'œil et qu'il en perde la vue. En fait, la loi est bonne en soi. La loi a été donnée par Dieu et elle est bonne. Elle est vraie. Elle est pour notre bien, cette loi. Et nous passons notre vie comme cet homme qui ne porte pas de lunettes, comme Bruno qui passe sa vie à être flashé. Nous passons notre vie à enlever, à détourner les règles pour les mettre à notre sauce. Avez-vous remarqué cela? Et je ne suis pas le seul à me faire flasher, ça se saurait. Et je ne suis pas le seul, et ce gars n'est pas le seul à ne pas porter ses lunettes. Mais lorsqu'on regarde ce que Dieu nous dit dans sa parole, les trois quarts du temps, les trois quarts des chrétiens font le contraire de ce que Dieu leur demande. Parce que nous voulons faire les choses à notre sauce, parce que notre vieille nature, parce que là, il y a une lutte en nous, parce que malheureusement, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Cette vieille nature vivra tant que vous ne serez pas pleinement ressuscité. Lorsque, jusqu'à la résurrection des morts, alors, oui, nous serons parfaits. Mais tant que vous serez sur cette terre, tant que nous serons sur cette terre, notre vieille nature sera toujours là pour lutter contre ce que Dieu veut faire. Mais, Dieu nous a promis qu'il nous donnerait tous les moyens pour réussir à vaincre sur cette vieille nature. Qu'est-ce que le péché? C'est la transgression de la loi. Imaginez, hier j'ai monté un lit, Ikea. Pff, quelle galère. Je me suis coupé. Enfin bref, Ikea. Suivez à la lettre Ikea. Je peux vous le dire. Vous achetez un meuble Ikea. Si vous ne suivez pas le mode d'emploi, que va-t-il se passer? Je vous le donne en mille. Soit vous devez tout démonter. C'est ce qui m'est arrivé à un moment donné. J'avais mis des lattes à l'envers. Enfin bref. Et pourtant, je suivais à la lettre. Hein. Déjà, ça veut dire que je ne suis peut-être pas fait pour ça. Mais on va rater le but. On va manquer la cible. Ce qui était défini au départ. Parce que quand on va visiter Ikea, les meubles sont beaux. Les lits sont confortables. Tout est bien fait. Mais parfois, lorsqu'on monte un meuble, et surtout ça, c'est au début de mon mariage. On achetait, à l'époque, il n'y avait pas Ikea, on allait chez But ou Conforama, je ne sais plus. On achetait des meubles, et quand je voyais le meuble par rapport à ce que j'avais acheté, je dis, il y a un truc qui n'est pas clair. Vous savez pourquoi? Parce qu'au début de mon mariage, je me disais, j'en ai pas besoin, je vais le faire moi-même. Je ne prenais pas la patience d'aller chercher l'explication de la manière dont il fallait bien bâtir. Qu'est-ce que je veux dire par là, mes frères et mes sœurs? Il y a beaucoup de chrétiens qui se posent des questions sur leur vie parfois. Beaucoup d'enfants de Dieu se disent, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais qu'est-ce que j'ai fait pour en arriver là? Et pourquoi ceci? Et pourquoi cela? Pourquoi tout a été détruit? Ils passent leur vie à se dire, mais il n'y a rien qui marche dans ma vie. Vous voulez que je vous dise une chose? Je suis clair avec vous, franc, honnête. Commencez par étudier le mode d'emploi. Commencez à méditer la parole et à aligner votre vie sur ce que vous méditez. Et après, on verra. Et je vous le dis à vous, mais je le dis à moi. Toutes mes erreurs, tous les coups que j'ai pris, toutes les larmes que j'ai pleurées, à 90%, c'est parce que je n'avais pas appliqué le mode d'emploi. Et ça, j'interpelle pas les non-chrétiens, c'est les chrétiens, les enfants de Dieu, ceux qui se disent enfants de Dieu. Méditez la parole. Écoutez ce que Dieu a à vous dire. Mettez les choses en pratique. Et vous verrez, ça arrangera beaucoup de choses dans vos vies. Et pourquoi je vous dis cela? Parce qu'en général, dans une église, lorsque lorsque les enfants de Dieu commencent à méditer la parole de Dieu et à obéir, les pasteurs n'ont plus de travail. Et moi, ça me plaît bien ça. Vous savez pourquoi ça me plaît bien? C'est pas parce que je suis fainéant, hein. Attends, je rectifie parce que c'est filmé, on ne sait jamais. Je fais de la politique là. Macron à côté de moi, c'est un gamin. Mais je veux dire par là que tout le temps que je perds à m'occuper de situations comme ça, c'est du temps que je n'ai pas pour chercher la face de Dieu. Et aujourd'hui, j'ai cette frustration de ne pas avoir assez de temps pour chercher la face de Dieu. Aujourd'hui, je passe mon temps à jouer les pompiers. Aujourd'hui, je passe mon temps à essayer de régler des situations. Alors qu'aujourd'hui, je devrais être à l'écoute du Seigneur, passer du temps dans la prière, préparer du message. Vous savez, quand j'ai fini mon message ? Hier soir. Je suis désolé, j'ai pas Émilie, je devais lui envoyer mon travail, mais je n'ai pas eu le temps. Hier soir, à 20h30, je crois. Ou 19h30, parce qu'après, je suis allé chercher notre petit hamburger. C'est une gourmande. Hein. Vous comprenez ça ? Et cette semaine, toute la semaine, alors c'est le moment où je lâche un peu, je livre mon cœur, mais cette semaine, j'avais une frustration en me disant, mais Seigneur, quand est-ce que je vais préparer le message ? Alors que j'aurais dû le mûrir. Là, je vous livre un truc qui est mal fait, hein, je vous le dis, hein, clairement. Allez, je continue. Quelles sont les conséquences du péché ? Donc, nous sommes privés de la gloire de Dieu. Comme le dit l'Épître aux Romains. Regardez ce qui est dit. On va avancer. Alors qu'ils entendirent... Alors, ils viennent de pécher, là. Ils viennent de louper la cible, Adam et Ève. Satan a réussi son œuvre. Il les a amenés dans son ADN à lui. Vous voyez ? Ils sont devenus des désobéissants. Ils ont raté la cible. Je les amène dans mon camp. Je prouve à Dieu que je suis plus fort que lui parce que j'ai réussi à prendre sa créature et l'amener dans mon camp. Il est en train de jubiler Satan. Et regardez ce qui se passe dans le cœur d'Adam et Ève. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin. Lui, Dieu, voulait vraiment cette relation avec eux. Lui, il disait, « Oh, je les ai créés, je vais retourner les voir. » Il le savait pourtant qu'ils avaient péché. Et l'homme et la femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel au milieu des arbres du jardin. Nous sommes privés de la présence de Dieu à cause du péché. Et non pas que Dieu s'éloigne de nous, mais souvent ce sont les gens qui s'éloignent de Dieu. Parce que lorsque nous voulons régler le péché, c'est vraiment quelque chose qui est dur à vivre. Parce que ça nous place devant une réalité spirituelle. Vous savez que le jour où j'ai donné ma vie au Seigneur, avant que je ne puisse ouvrir la bouche et dire au Seigneur, « Oh Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés », il s'est passé au moins une demi-heure. J'étais dans un combat intense. Parce qu'il y avait tout ce poids et tout ce lien avec le péché qui m'empêchait d'ouvrir la bouche. Je croyais même que j'étais en train de faire un infarctus. J'avais une barre sur la poitrine. Et là, le chrétien qui nous a amenés au Seigneur, il a dit, je me souviendrai toujours, au nom de Jésus, maintenant tu le laisses tranquille, tu le laisses parler. Et là, il y a un mot qui est sorti, c'est pardonne-moi Seigneur. Et là, au fur et à mesure que j'ai parlé, j'ai dit les choses, c'était maladroit comme prière, mais Dieu a vu mon cœur. J'ai dit, je veux être délivré, Seigneur. Pardonne-moi, j'ai fait du mal à ma femme, j'ai fait du mal à mes enfants, je suis un homme mauvais. Oui, je l'étais. Et je dis, je te demande maintenant de me laver et de me purifier. Mais vous voyez, nous sommes privés de la présence glorieuse de Dieu. Lorsque nous péchons, et c'est d'autant plus grave, lorsque quelqu'un a fait déjà ce pas et recommence et pêche d'une manière délibérée. Vous comprenez ce que je veux dire ? Parce que des fois, on pêche, on oublie. Oh, des fois, j'oublie. Ça arrive. On oublie. Mais c'est un péché parce que j'ai raté la cible. Mais c'est plus grave encore pour l'enfant de Dieu qui va à l'église, qui lève les mains le dimanche matin, qui dit « Dieu est mon sauveur, Dieu est mon Seigneur » et qui se livre à des choses que Dieu réprouve. Là, il y a une incohérence, vous êtes d'accord avec moi. Il y a une incohérence. Qui d'entre nous peut se dire qu'il n'a jamais péché délibérément, même depuis sa conversion ? Et ça, ça attriste le cœur du Père. Et ça, ça nous amène dans un état de quoi ? Culpabilité. Vous avez des... C'est mon grand ? Ouais ? Culpabilité, il est d'accord avec moi, j'ai un premier disciple. Culpabilité, condamnation, et vous vous trouvez dans des situations où les personnes chrétiennes, enfants de Dieu, nés de nouveau, se retrouvent dans une situation où soit, premièrement, ils viennent à l'église, et ça c'est dans le meilleur des cas, et là, c'est très compliqué pour eux. Deuxièmement, ils restent chez eux. Et ils continuent à rester chez eux jusqu'à ce qu'ils meurent à petit feu. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Et tout péché doit être réglé dans la présence de Dieu. Que fait Dieu là? Il est dans le jardin, il le sait qu'ils ont péché. Il est omniscient, omnipotent, il le sait. Il va dans le jardin, sa voix parcourt le jardin. Où est ma créature? Est-ce que vous entendez la voix de Dieu déjà dans l'église qui dit « Où sont mes créatures qui pêchent? Où sont mes créatures qui désobéissent ?» Alors encore plus, la voix de l'Éternel qui s'élève parmi toutes les nations et notamment sur ce pays qui dit « Mais où sont mes créatures ?» Est-ce que vous entendez la voix de Dieu qui est en train d'être proclamée sur ce pays et qui dit « Mais quand mon peuple va-t-il aller chercher ses perdus ?» J'arrête, je m'emballe là. Oui, nous sommes privés de la gloire de Dieu. La puissance du péché te rend impuissant pour te changer toi-même. Vous savez ce qu'on a fabriqué? On a fabriqué dans l'église des schizophrènes. On leur a dit, tu ne dois plus pécher. Tu dois marcher droit avec le Seigneur. Alors qu'il n'était même pas né de nouveau. Je connais un pasteur de l'église de nous venons. On a reçu, début des années 90, une parole prophétique. Un prophète vient et dit, de cette église va sortir trois ministères pastoraux. J'étais le premier. Il y en a un autre qui est à Denain. Il y a un autre maintenant qui est pasteur dans la même église, à Mont-Saint-Barœul. Et l'un de ces trois, pas moi, donc c'est l'un des deux autres, vous savez qu'il s'est fait baptiser. Il a suivi des cours de disciples. Il s'est fait baptiser et un an après, il a déclaré à l'église, hier je me suis converti, je suis né de nouveau hier. On lui a dit, viens à l'église. On lui a fait des cours du baptême. On l'a amené, pensant qu'il allait être un disciple, en réalité, il n'était même pas converti. Il était encore en lutte intérieurement sur plein mal de choses. Il faut naître de nouveau. Nicodème vient voir Jésus. Il faut naître de nouveau. Ce n'est pas une possibilité, c'est une condition sine qua non. Tu dois naître de nouveau. Et tu ne peux naître de nouveau. Et tu ne peux pas changer si tu n'es pas né de nouveau. Parce que ta nouvelle nature te pousse vers la glorieuse destinée à laquelle Dieu t'appelle. J'espère que je ne mets pas trop le doute sur vos vies, mais posez-vous la question. Est-ce que je suis né de nouveau? Dimanche prochain, même, il n'y aura peut-être que 10 personnes. Mais c'est important de se poser la question. Parce que quand ta vieille nature prend le dessus sur ta volonté, tu dois te poser la question, est-ce que je suis né de nouveau? Est-ce que j'ai vraiment donné ma vie au Seigneur? Est-ce que je me suis réellement converti? Est-ce que j'ai reconnu que je suis perdu, privé de la gloire de Dieu? Parce que tu ne peux devenir disciple sans être passé par cette étape. Ah, je sais, je vous bouscule, hein. Mais c'est un fondement primordial. C'est le fondement de la foi. La mort et la résurrection de Jésus. C'est le fondement même de notre vie. Parce que si nous basons notre vie sur autre chose que cela, nous allons faire une pseudo-église. Une pseudo-œuvre, un pseudo-ministère. Il faut naître de nouveau. Enfin, la conséquence du péché. C'est la culpabilité, la condamnation, je l'ai dit. Et elle amène la colère de Dieu sur quiconque ne veut pas de cette justice-là parfaite qui a été manifestée en Jésus-Christ. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. En effet, écoutez ceci, l'Épître aux Hébreux. La loi possède une ombre des biens à venir. Vous savez que tous les ans, dans le tabernacle, dans le temple, il y avait des sacrifices qui étaient donnés pour effacer les transgressions. Et regardez ce qu'il est dit de ces sacrifices. La loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais. La loi ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. La loi ne peut pas te rendre parfait. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices. La loi m'amène à comprendre, les règles que Dieu m'a données m'amènent à comprendre que je suis incapable d'accomplir à 100% cette loi. La loi me montre que, et c'est pour ça qu'il y a un code de la route, et c'est pour ça que je me fais flasher, et c'est pour ça que il y a des codes, porte tes lunettes, et c'est pour ça qu'il y a encore des accidents de travail, pour faire prendre conscience aujourd'hui aux hommes qui sont incapables d'accomplir ces règles. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit « Tu n'as pas voulu ni offrande ni sacrifice, mais tu m'as formé un corps. » Et à un moment donné, Christ, Jésus, dit « Ces sacrifices ne me rendent pas parfait, mais maintenant je viens pour, Père, offrir mon corps en sacrifice. Je viens me donner sur la croix. Je viens pour être brisé, maudit. Je viens me faire pécher. Il s'est fait pécher. Il n'est pas la représentation du péché, c'est le péché. Dieu a considéré ce corps comme un corps de péché, lui qui était parfait, et il l'a amené à mourir sur la croix. Et maintenant, c'est parce que Jésus était parfait sur la croix et dans sa vie de tous les jours, et parfait qu'il était l'agneau sans tache. Si j'ai la foi en ce sacrifice, alors je suis lavé, purifié, sanctifié, et je peux me tourner vers Dieu et avoir une vraie relation avec lui. Voilà le salut. C'est pas plus compliqué que ça. Tu dois être conscient que tu es perdu, que les hommes sont perdus. Tu dois être conscient que tu ne pourras pas changer par tes propres efforts. Tu dois comprendre qu'il n'y a pas d'effort humain qui puisse te changer, te transformer. Il n'y a que le sang de Jésus. Il n'y a que le sacrifice à la croix. En ce sens, c'est une folie de croire à la croix, comme le dit l'apôtre Paul. C'est une folie pour les hommes de croire que quelqu'un peut changer à travers un homme qui est venu se faire chair. Le Fils de Dieu a abandonné sa gloire, il est venu sur la terre pour donner sa vie. C'est une folie! Comment quelqu'un et le sang de quelqu'un pourraient nous rendre parfaits? Eh oui, c'est une folie, mais c'est une réalité spirituelle. C'est en tout cas le chemin et le choix du Père, du Créateur, qui a décidé d'envoyer son propre Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et c'est ce salut-là que nous allons présenter. C'est ce salut-là que je vous présente ce matin. Mais c'est ce salut-là que nous présentons.